au sujet de la conférence de ce soir sur la Chine 40 ans après la mort de Mao. Alors la tension entre les États-Unis et la Chine, elle est réelle. Cette tension, elle monte en mer de Chine, autour de Taïwan. Elle se manifeste par une course à l'armement, du côté de la Chine comme du côté des États-Unis. Elle se manifeste par de nouvelles alliances qui s'organisent, comme si les acteurs principaux installaient le décor de la future tragédie. Elle se manifeste par des manœuvres militaires et par des déclarations qui entretiennent de part et d'autre un climat guerrier et alimentent la surenchère. C'est que la Chine n'est plus ce qu'elle était il y a 40 ans. En faisant l'atelier du monde et en cherchant à exploiter un marché intérieur de plus en plus vaste, les puissances impérialistes, États-Unis en tête, lui ont permis de devenir une puissance régionale incontournable, dont le développement heurte aujourd'hui, et de façon inexorable, les intérêts de ces mêmes puissances, en particulier l'impérialisme américain qui domine la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors sommes-nous à la veille d'un conflit d'ampleur impliquant la Chine et les États-Unis ? Nous ne sommes pas devins, mais la dynamique sur laquelle nous allons revenir ce soir et qui est à la source des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, cette dynamique est toujours à l'œuvre et elle mène les peuples vers une impasse sanglante. La responsabilité des États-Unis est écrasante. Ils sont à la manœuvre depuis 70 ans. Embargo, puis ouverture, endiguement aujourd'hui. Depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en 1949, les États-Unis ne sont pas parvenus à soumettre ce régime nationaliste. Et alors que le capitalisme s'enfonce dans une crise sans fin, ils ne peuvent pas tolérer l'émergence d'une puissance qu'ils ne contrôlent pas et qui, dans certains secteurs et dans certaines zones, les concurrence. La guerre qu'ils mènent pour l'instant sur les seuls terrains commerciaux et économiques prépare les conflits militaires de demain. Mais l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les peuples est aussi celle du nationalisme. Le parti qui est au pouvoir en Chine, avec à sa tête Xi Jinping, se dit communiste. Il prétend même construire un socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors son nom lui vient de son histoire, qui commence dans la foulée de la révolution ouvrière russe de 1917, mais dont le cours fut détourné par la bureaucratie stalinienne sur la voie nationaliste, bourgeoise, quand il renonça à la révolution socialiste pour chercher à construire une économie capitaliste nationale dans un monde dominé par l'impérialisme. La Chine, construite par Mao et ses successeurs, est un État bourgeois basé sur l'exploitation de la classe ouvrière et de la paysannerie chinoise. Et s'il s'est construit de façon indépendante de l'impérialisme, voire à certaines périodes contre lui, il se heurte aujourd'hui aux limites que l'impérialisme tolère, mais il s'y heurte de puissance à puissance, sans d'autre perspective pour sa survie qu'une nouvelle barbarie. Pour développer tout cela, je passe la parole à Serge.
Alors, pour justifier sa politique nationaliste et autoritaire, Xi Jinping n'hésite pas à ramener au souvenir des Chinois l'humiliation que les puissances impérialistes ont imposée à la Chine pendant plus d'un siècle, des années 1840 à la Révolution chinoise de 1949. L'Empire chinois, alors dominé par la dynastie Qing, était un vaste État, le plus peuplé au monde, où la bureaucratie et les seigneurs féodaux exploitaient des centaines de millions de paysans sans terre et des plus pauvres. Le siècle d'humiliation commença en 1840, quand les soudards de l'impérialisme anglais puis français ont ouvert à coups de canon l'Empire chinois au commerce de l'opium. Dans cette guerre de l'opium, l'Empire chinois fut vaincu et les diplomates occidentaux, s'appuyant sur les détachements militaires, purent régenter la Chine afin que leurs usuriers puissent la dépecer et l'affamer. Après avoir mis sous tutelle la dynastie régnante, les forces armées de cette coalition impérialiste la protégèrent, jusqu'en 1911 contre les révoltes populaires qui, pendant 70 ans, secouèrent constamment le pays. Ce fut le temps des canonnières occidentales qui remontaient les fleuves pour massacrer les populations qui se soulevaient. La dynastie finit par chuter et la République fut proclamée en 1911 à Nankin par un nationaliste du nom de Sun Yat-sen. Mais ni lui ni son parti, le Kuomintang, n'héritèrent du pouvoir dans la Nouvelle République. En fait, l'effondrement de la dynastie laissa la place à une série de cliques militaires qui se succédèrent à Pékin. Quant à l'unité de la Chine, c'était plus que jamais une fiction. De 1917 à 1927, plus de 1500 chefs militaires, petits et grands, seigneurs de guerre, dévastèrent le pays. Les Occidentaux s'adaptèrent à la situation. À chaque nouvelle menace révolutionnaire, à chaque ébranlement du pouvoir en place, les canonnières occidentales bloquaient les ports et débarquaient leurs troupes, laissaient fusiller les étudiants contestataires ou les grévistes quand ils ne participaient pas directement aux fusillades, en attendant de contracter des arrangements crapuleux avec la clique qui s'apprêtait à remplacer la précédente au pouvoir. Mais à partir de 1923, en grande partie sous l'effet des succès de la Révolution russe, le mouvement nationaliste bourgeois et le mouvement ouvrier grandirent conjointement à une vitesse extraordinaire. À n'en pas douter, une révolution semblable à celle qu'avait connue la Russie en 1917 était en train de mûrir. Pendant 2 ans, de 1925 à 1927, des dizaines puis des centaines de milliers d'ouvriers s'insurgèrent. Répondant aux fusillades des Occidentaux, ils manifestèrent, firent grève, paralysant pendant des mois les grandes villes comme Canton et Hong Kong. Les ouvriers et les paysans qui se révoltaient, eux aussi à leur suite, mettaient de plus en plus leurs espoirs dans une révolution sociale qui, balayant les classes possédantes, chinoises et étrangères, aurait mis fin à leur oppression séculaire. Le Parti communiste chinois, fondé en 1921 par une poignée d'intellectuels, organisa en peu de temps des milliers d'ouvriers, à Canton, à Shanghai, qui marchaient dans les pas de la révolution ouvrière russe. Mais la dégénérescence de l'État ouvrier soviétique, fruit de son isolement dans un pays arriéré, gagna la Troisième Internationale, cette internationale qui organisait les partis communistes du monde entier. Avec Staline à sa tête, ces partis communistes finirent par trahir les idées sur lesquelles ils s'étaient fondés. En Chine, au nom d'une révolution qui, selon Staline, devait d'abord être bourgeoise, le jeune parti communiste dut se fondre dans le Kuomintang, le parti nationaliste bourgeois. L'internationale fournit des conseillers au Kuomintang, l'aida à former une armée qui entreprit en 1926, en partant de Canton sous la direction de Chiang Kai-shek, sa marche vers le nord et le pouvoir. À Shanghai et à Pékin, la bourgeoisie chinoise était des plus inquiètes des soulèvements populaires qui accompagnaient la marche de l'armée du Kuomintang. Elle avait vu se transformer les grèves en grève générale et à Shanghai, c'était maintenant l'insurrection ouvrière. Ses intérêts étaient tout autant en jeu que ceux des capitalistes étrangers qui s'étaient barricadés dans leurs concessions. Mais tous furent vite rassurés. En 1927, en arrivant sur Shanghai, où les travailleurs et les communistes avaient pris le pouvoir pour le lui remettre, Chiang Kai-shek conclut un accord avec les banquiers et les hommes d'affaires anglais, américains et français. Il fit fusiller des milliers d'ouvriers et de militants. Le massacre de Shanghai ouvrit une longue période de terreur blanche où les progrès de l'armée nationaliste se conjuguaient dorénavant avec les massacres des paysans et des ouvriers rouges. Les puissances étrangères avaient enfin leur nouvel homme fort en Chine, Chiang Kai-shek, et le danger communiste était écarté. Il ne restait, disaient bourgeois chinois et diplomates, que quelques bandits isolés dans les campagnes. Le mouvement communiste urbain, qui avait tant effrayé la bourgeoisie chinoise, était en effet réduit à quelques petites troupes d'hommes en débandade dirigées par un certain Mao Zedong. Pour reprendre les termes de Harold Isaac qui décrivit cette révolution, la défaite des ouvriers de 1927 était une tragédie, et cela à plusieurs niveaux. Sous prétexte de vaincre les seigneurs féodaux et l'impérialisme, Staline contraignit les ouvriers et les paysans chinois à se ranger derrière la bourgeoisie et son parti nationaliste. Pourtant, la révolution russe avait démontré qu'une telle politique était une impasse. En Russie, en 1917, les ouvriers, alors qu'ils étaient comme en Chine minoritaires, avaient démontré qu'ils étaient la seule force sociale capable de sortir la société du féodalisme et de s'opposer à l'impérialisme. Ils avaient dû pour cela renverser la bourgeoisie en prenant le pouvoir, en s'appuyant sur les paysans. La victoire des soviets russes aurait pu être le début d'une révolution qui, si elle avait entraîné la classe ouvrière des pays occidentaux, aurait pu conduire au renversement du capitalisme à l'échelle mondiale. Après les échecs révolutionnaires de 1919 à 1923 en Allemagne et de 1919 en Hongrie, la révolution prolétarienne chinoise aurait pu être l'occasion pour les travailleurs du monde entier de repartir à l'assaut. Elle aurait pu aussi remobiliser la classe ouvrière russe contre la bureaucratie stalinienne. La défaite renforça au contraire sa dictature. L'autre conséquence de la défaite des ouvriers en 1927 fut que le Parti communiste changea de nature. La répression, son isolement de la classe ouvrière, le transformèrent en un parti nationaliste radical. Dès cette époque, il n'avait plus de communiste que son nom. Mao, qui avait pris sa tête, l'orienta vers la constitution de bases militaires à la campagne. En 1932, Trotsky écrivait que, je le cite, « la plus grande partie des communistes du rang, dans les corps de partisans rouges, se composent de toute évidence de paysans qui très honnêtement et sincèrement se prennent pour des communistes, mais qui sont des révolutionnaires paupérisés ou des petits propriétaires révolutionnaires. » Il poursuivait, parmi les dirigeants, il n'y a sans doute pas mal d'intellectuels ou de semi-intellectuels déclassés qui ne sont pas passés par la sérieuse école de la lutte prolétarienne. Durant 2 ou 3 ans, ils vivent la vie des commandants et des commissaires de partisans, ils commandent et ils conquièrent des territoires. Les armées rouges qui se constituèrent dans ces années-là ne se distinguèrent des seigneurs de guerre qu'en étant plus respectueuses des paysans sur lesquels elles vivaient, une façon d'être tolérées plus longtemps. Pourchassées, elles avaient fini par trouver refuge dans une province reculée du Nord quand la guerre avec l'impérialisme japonais éclata en 1937. Face au Japon, Mao et Chiang trouvèrent un accord. Le Parti communiste chinois renonçait officiellement à renverser le Kuomintang par la force. L'armée rouge était réorganisée et placée sous le contrôle direct du commandant régional du Kuomintang sous le nom de 8e armée de route. La guerre contre l'impérialisme japonais allait être le tremplin du Parti communiste chinois vers le pouvoir. Alors, c'est à cette époque que le rôle de l'impérialisme américain devint central en Chine. Avant la Seconde Guerre mondiale, les impérialismes français, allemands, anglais étaient très présents. À partir de 1940, la France et l'Angleterre étaient hors course. Les deux seuls qui restèrent en présence étaient le Japon, allié de l'Allemagne, et les États-Unis, face à face, en lutte pour la domination mondiale. De fait, les États-Unis ne lésinèrent pas sur l'aide militaire au Kuomintang, seul gouvernement que reconnaissait également l'URSS, tandis que les troupes communistes ne bénéficiaient d'aucune aide, ni américaine, ni même soviétique. Elles devaient se contenter des armes prises à l'ennemi. Malgré cela, jusqu'à la capitulation du Japon devant les États-Unis en 1945, les territoires contrôlés par les nationalistes ne cessaient de rétrécir, alors que les régions libérées, tenues par les troupes de Mao, s'étaient peu à peu étendues. Ces troupes communistes regroupaient en 1945 près d'1 million de soldats et 2 fois plus de miliciens. Elles faisaient corps avec la population. Non seulement elles avaient allégé la fiscalité, diminué les taux de fermage, mais c'était bien la première fois que le paysan chinois voyait une armée qui ne vivait pas de rapines et de pillages, mais qui, au contraire, entre 2 combats, se livrait aux travaux des champs et subvenait ainsi en grande partie à ses propres besoins. Dans la zone nationaliste, le régime était non seulement détesté par la paysannerie, qui était écrasée sous les impôts et les réquisitions, mais aussi même par de larges couches de la bourgeoisie, qui trouvait que la dictature de Chiang Kai-shek était devenue trop étouffante, synonyme de corruption, de pot de vin et d'influence. Ce parasitisme se doublait d'une inefficacité militaire patente. La bureaucratie Kuomintang revendait sur le marché noir jusqu'aux armes qu'elle avait reçues des États-Unis. C'était une armée où, selon le témoignage de Jacques Belden dans son livre « La Chine ébranle le monde », les officiers considéraient que battre les soldats des paysans pauvres était leur privilège, une armée qui n'avait pas d'âme. Alors, la fin de l'occupation japonaise déclencha une véritable révolution paysanne. Le PC de Mao, après bien des hésitations, en prit la tête. Alors que Mao, pour ne pas s'aliéner les seigneurs dits patriotes, n'avait pour programme agraire que quelques mesures modérées de réduction de loyers, les paysans avaient fait de plus en plus confiance aux partisans rouges qui les respectaient et leur apprenaient l'autodéfense contre l'occupant japonais. Cette occupation avait été atroce. Cette occupation avait été atroce en Chine du Nord. Les seigneurs féodaux s'étaient fait les exécutants intéressés des exactions japonaises. Les paysans, qui avaient courbé le dos pendant des mois, se révoltaient maintenant, y compris contre les seigneurs. Mais comme le rapporte Jacques Belden, le Parti communiste lanterna. Les demandes des paysans augmentèrent d'intensité. L'hiver de 1946 vint et passa, toujours pas de décision. Le printemps vint, les communistes hésitaient encore. Un pas en arrière, paix avec les seigneurs. Un pas en avant, guerre contre le régime féodal. En fait, le PC était toujours disposé à traiter avec Chiang Kai-shek. Sa seule revendication véritable, c'était un gouvernement de coalition, une position longtemps soutenue, y compris par l'impérialisme américain. C'est Chiang Kai-shek qui rompit. Il s'inquiétait de voir le PC grandir en force et en influence. La bourgeoisie, elle, n'en pouvait plus. Jacques Belden rapporte les propos d'un patron de 3000 ouvriers fuyant la zone nationaliste, approuvant la révolution agraire parce que l'industrie ne peut se développer sans elle et qui ne comprenait pas pourquoi l'Amérique entretenait délibérément la guerre en aidant Chiang Kai-shek. Sur le plan international, les États-Unis s'orientaient vers la rupture de leur coopération avec l'URSS. C'était les prémices de la guerre froide. Tout cela décida Mao. Au cours de l'été 1946, des courriers apportèrent au commissaire l'ordre suivant « partager la terre ». Le sort en était jeté, le parti communiste avait choisi. Très vite, les armées du Kuomintang, vomies par la population, furent battues et rejetées à la mer. Chiang Kai-shek, avec plusieurs dizaines de milliers d'hommes, se réfugia à Taïwan. Après la victoire de Mao, les différentes puissances impérialistes avaient disparu de la Chine continentale. Ce résultat n'était pas seulement la conséquence de la lutte du peuple chinois, c'était aussi un contre-coup de la Seconde Guerre mondiale. En se dévorant entre elles, les puissances impérialistes avaient fini par s'éliminer mutuellement de Chine. La vieille Chine était morte et bien morte, mais le Parti communiste chinois n'était pas un parti révolutionnaire prolétarien. Il se méfiait des ouvriers qu'il maintint soigneusement à l'écart de la révolution paysanne. Comme l'avait pressenti Trotsky dès 1932, en entrant dans les villes, les commandants communistes furent, avant tout, enclins à regarder les ouvriers de haut en bas, considérant leurs revendications inopportunes et malvenues. L'extension de la révolution mondiale, n'était pas le problème du Parti communiste arrivé au pouvoir sur les épaules des paysans révoltés. Son problème, c'était de construire une économie nationale résistant à la tutelle de l'impérialisme et permettant à la bourgeoisie chinoise de survivre. C'était en fait la continuation du rêve du nationaliste Sun Yat-sen, une révolution nationale bourgeoise qui allait vite se heurter à la bourgeoisie elle-même et à l'impérialisme. Si les États-Unis avaient été chassés du continent chinois avec les nationalistes, il leur restait cependant une carte, Taïwan, qui devint leur pied-à-terre régional, leur base avancée. Taïwan, c'est une petite île de 30 000 km² située à moins de 200 km de la côte sud-est de Chine, habitée aujourd'hui par un peu plus de 23 millions d'habitants. L'île a été longuement gouvernée par la Chine impériale avant de devenir en 1895, après la défaite de celle-ci face au Japon, une colonie du Japon. Dès 1945, l'état-major américain fit de Taïwan une base militaire, équipant et entraînant les divisions du Kuomintang envoyées sur le continent pour tenter d'endiguer l'avancée des troupes de Mao. Dans un premier temps, la population de l'île accueillit avec soulagement le départ des colonisateurs japonais. Mais l'appareil du Kuomintang se comporta comme en Chine continentale, avec le seul souci de se remplir les poches en se payant sur l'habitant. La révolte qui démarra le 27 février 1947 contre le Kuomintang dura 2 semaines et fut écrasée dans le sang. Pendant 1 semaine, 8 jours, les troupes du Kuomintang se livrèrent à des exécutions à la chaîne, passant par les armes tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, faisant entre 10 000 et 30 000 morts. C'est ainsi que l'île put devenir en 1949, sous la protection des troupes américaines, le dernier refuge des troupes nationalistes. Dans les années 50 et 60, il y eut plusieurs incidents avec la Chine sur des îlots autour de Taïwan. Mais les États-Unis avaient choisi le statu quo. Ils ne tenaient pas à se laisser entraîner dans une aventure militaire pour quelques cailloux. Ils avaient imposé à Taïwan de s'interdire toute opération militaire en cas d'attaque chinoise sur les îlots sans l'accord préalable des États-Unis. Sur l'île, ce fut 40 années de terreur blanche. 140 000 personnes furent emprisonnées pour leur sympathie pour le Parti communiste chinois ou pour leur opposition au gouvernement nationaliste. Entre 3 000 et 4 000 d'entre elles furent exécutées. Et l'île devint un bagne pour la classe ouvrière. La loi martiale n'y fut levée qu'en 1987, permettant au régime de se donner une façade démocratique à partir des années 90. Les États-Unis financèrent en grande partie le développement de la bourgeoisie locale et de son industrie. Des milliards de subventions directes venaient s'ajouter à l'aide militaire et aux retombées sonnantes et trébuchantes de la guerre du Vietnam, pendant laquelle Taïwan servit de base de repli pour les troupes américaines. C'est comme cela que l'impérialisme américain fit de cette île gouvernée par des gangsters nationalistes le flambeau de la lutte des démocraties contre le communisme totalitaire. Dans la Chine continentale, Mao Zedong se donnait comme objectif de moderniser le pays et de développer l'économie chinoise selon les voies bourgeoises. Il ne s'en cachait pas. En 1945, par exemple, il expliquait, je cite, « Étant donné que la révolution ne vise pas la bourgeoisie en général, mais l'oppression impérialiste et féodale, le programme de la révolution n'est pas d'abolir la propriété privée, mais de protéger la propriété privée en général, cette révolution ouvrira la voie du développement du capitalisme. » Si le régime chinois fut contraint de nationaliser les entreprises, ce n'était donc pas parce qu'il était prolétarien, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. En 1949, la Chine était toujours un pays agricole arriéré. La bourgeoisie chinoise était essentiellement comprador, c'est-à-dire servant d'intermédiaire dans le commerce avec l'impérialisme. Le peu d'industrie qu'il y avait était élémentaire, sur une base technique très faible, où avaient été importés des pays étrangers. Et après 20 années de guerre et de révolution, une partie avait été détruite. La bourgeoisie était donc des plus faibles, l'économie passablement ruinée. L'impérialisme américain allait encore aggraver les choses. Sa politique était celle du containment. À l'œuvre depuis 1947 et le début de la guerre froide, il s'agissait d'empêcher toute extension de la sphère d'influence de l'URSS. L'éclatement de la guerre de Corée en juin 1950 et la participation chinoise du côté de la Corée du Nord lui donnèrent un prétexte pour imposer à la Chine un blocus économique et politique qui devait durer plus de 20 ans. La Chine, sous embargo, devait trouver l'essentiel de ses ressources et de ses moyens de production dans ses limites nationales. La Chine fut privée sur la scène internationale de tout droit d'expression et de toute représentation. À l'ONU, son siège fut occupé par Taïwan, qui comptait alors 8 millions d'habitants, alors que la République populaire en comptait 500 millions. Au pouvoir, le PC valorisa, comme pendant la guerre civile, les capitalistes nationaux patriotes, les actionnaires des entreprises touchaient des dividendes fixés par règlement. Le problème principal vint des capitalistes eux-mêmes. Ceux qui n'avaient pas fui fraudaient le fisc à grande échelle, sabotaient les commandes d'État, tout en versant les pots de vin à qui il fallait. Bref, la bourgeoisie se comportait comme elle le fait partout et rendait de toute façon impossible tout développement national digne de ce nom. C'est ainsi que le régime, qui voulait sortir le pays du sous-développement malgré l'embargo, fut amené en 1955 à nationaliser, à racheter en fait, les entreprises industrielles et commerciales. Il ne rencontra guère de résistance. La conduite des entreprises nationalisées était souvent confiée aux anciens propriétaires, élevés au rang de, je cite, « capitalistes nationaux patriotes qui empruntent courageusement la voie du socialisme ». Pendant plus de 20 ans, ce fut donc l'État qui organisa l'essentiel de l'activité économique, permettant des progrès importants sur le dos de l'immense paysannerie chinoise qui constituait encore les trois quarts de la population à la fin des années 70. L'agriculture, qui avait été collectivisée dans les années 50, fut quelque peu modernisée, les rendements augmentés. Dans les campagnes et dans les usines régnait un certain égalitarisme, mais c'était sur un fond de pauvreté générale. Sur ces bases, l'industrie qui partait de très loin progressa de 9% par an en moyenne en développant les industries de base comme la sidérurgie. La proportion de Chinois sachant lire et écrire passa de 20% en 1949 à 75% en 1978. L'espérance de vie passa de 38 à 64 ans sur la même période. Bref, contrairement à ce que répètent les commentateurs occidentaux, l'étatisme n'a pas freiné le développement de la Chine, il l'a au contraire permis, réalisant en quelque sorte une accumulation primitive qui allait se révéler essentielle pour la suite. Alors dans cette accumulation primitive, l'aide soviétique joua un rôle important. Dans la première moitié des années 50, les relations sino-soviétiques étaient placées sous le signe de la coopération. L'attestent les très nombreux projets de développement économique et industriel, l'envoi en Chine de milliers de techniciens soviétiques. Mais contrairement à tant d'autres pays dépendant du grand frère soviétique, la Chine avait les moyens de jouer son propre jeu. Elle soutint le Viet Minh pendant la guerre d'Indochine contre la France. Elle envoya plus d'un million de volontaires aux côtés de la Corée du Nord dans le cadre de la guerre de Corée entre 50 et 53, alors que l'URSS respecta les accords passés avec les États-Unis sur le dos du peuple coréen. Les tensions entre la Chine et l'URSS se développèrent dans la deuxième partie des années 50, après la mort de Staline en 53, quand Khrouchtchev, de retour des États-Unis, se mit à faire la promotion de la coexistence pacifique entre l'impérialisme américain et l'URSS. Les Chinois craignaient que l'URSS ne les lâche pour pouvoir se rapprocher des États-Unis. En juillet 60, les conseillers soviétiques furent rappelés en URSS. En 62, la Chine reprocha à l'URSS de s'être écrasée devant les États-Unis lors de la crise des missiles de Cuba. En 63, les liens diplomatiques entre Chine et l'URSS étaient officiellement rompus et comble du comble, la Chine se permit d'entrer en guerre contre l'URSS autour de la Mandchourie en 1969. La rupture entre les deux pays prit l'apparence d'un conflit idéologique entre deux courants du monde dit communiste. En réalité, les causes de la crise résidaient dans la nature même de ces deux pouvoirs. Même si les deux régimes se disaient communistes, ils ne l'étaient ni l'un ni l'autre. Les deux États représentaient les intérêts des classes et des couches privilégiées de leur propre pays. L'URSS était le fruit d'une révolution ouvrière trahie par une vaste bureaucratie. La Chine de Mao était issue d'une révolution nationale bourgeoise et les intérêts des deux États ne coïncidaient pas. Tant que les États-Unis faisaient la guerre froide à l'URSS et l'embargo à la Chine et l'URSS pouvaient coopérer. Mais la tentative de rapprochement entre l'URSS et les États-Unis, opérée à cette époque, ne pouvait se faire qu'au détriment de la Chine. C'est pour ces raisons que la Chine s'opposa à l'URSS et on pouvait gager qu'on la verrait vite changer de ton si les Américains lui faisaient des avances, ce qui n'allait pas tarder après que la Chine ait fait la guerre à l'URSS en Mandchourie. Excusez-moi. Alors, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, la sortie de la Chine de son isolement n'est pas due à un tournant de la politique chinoise suite à la mort de Mao Zedong en 1976. Il s'agit en réalité d'un tournant dans la politique des États-Unis qui s'est d'ailleurs effectué du vivant de Mao Zedong dès la fin des années 60. La longue guerre du Vietnam s'était transformée en un bourbier dont les États-Unis n'arrivaient pas à sortir. Un bourbier qui leur créait de plus en plus de problèmes intérieurs, économiques et politiques, notamment par la révolte de la jeunesse et des Noirs. Le Vietnam était perdu, mais une retraite précipitée aurait pu être le signal de la révolte pour d'autres peuples. Pour les maintenir dans leur sphère, les États-Unis ne pouvaient plus compter sur la seule force militaire. La Chine avait le poids pour maintenir les peuples en laisse. Avec son appui, les États-Unis pouvaient espérer sortir du bourbier vietnamien sans que d'autres peuples se sentent autorisés à s'émanciper à leur tour. Les États-Unis savaient qu'une entente avec Pékin était possible parce que fondamentalement, la Chine, comme l'URSS, ont toujours été prêtes à une telle entente pourvu qu'elle garantisse le statu quo mondial et donc leur existence. Ce sont les États-Unis qui avaient rompu les fils à partir de 1947. Il ne dépendait que d'eux de les renouer. Et la rupture entre la Chine et l'URSS montrait aux États-Unis qu'ils pouvaient s'appuyer sur la Chine en la jouant contre l'URSS. Aussi, dès 1969, dans la foulée de la guerre sino-soviétique, les États-Unis décidèrent d'assouplir un peu leurs relations avec Pékin. Dès 1971, les diplomates de la République populaire de Chine remplacèrent ceux de Chiang Kai-shek aux Nations Unies. En février 1972, le président américain, Richard Nixon, se rendit en Chine. Mao ne lui posa pas de conditions sur Taïwan. Le régime chinois était en réalité acculé. L'économie était dans une impasse. La révolution prolétarienne culturelle, lancée quelques années plus tôt pour réaffirmer la mainmise de Mao sur le PC, était une catastrophe, laissant la Chine exsangue. La rencontre de 1972 fut le signal, fort bien entendu par les alliés des États-Unis, que ces derniers ne s'opposaient plus à ce qui est des relations officielles, y compris sur le plan économique avec la Chine. Quant à la Chine, elle démontra vite qu'elle respecterait les termes du nouveau contrat. Elle encouragea l'écrasement d'une révolte qui se réclamait pourtant du maoïsme à Ceylan en 71 et elle appuya le Pakistan contre la sécession du Bangladesh, prenant dans les deux cas une attitude similaire à celle des États-Unis. Alors la crise économique mondiale des années 70 accéléra le rapprochement entre les deux pays. En 79, ils officialisèrent leurs relations diplomatiques. Les États-Unis déplacèrent leur ambassade à Pékin. Deng Xiaoping, qui avait réussi à prendre les rênes du pouvoir après la mort de Mao en 76, entreprit une tournée aux États-Unis en janvier 79, où il lança la coopération économique officielle entre les deux pays. Des centaines de projets de recherche en commun furent mis sur pied et dans le courant de l'année 79, un premier accord commercial bilatéral fut signé. Deng Xiaoping fit la une de Time comme homme de l'année 78. La politique des États-Unis consistait à faire entrer la Chine dans le cadre de leurs intérêts. Alors que la crise frappait l'économie mondiale depuis le milieu des années 70, les puissances capitalistes occidentales étaient décidées à faire remonter le taux de leurs profits en sous-traitant la production matérielle la plus courante dans des pays à bas salaire. À cela, il fallait rajouter que l'ouverture de la Chine promettait aux entreprises occidentales un vaste marché et vierge, vu dès 1979 par les banquiers et les industriels américains comme le marché du siècle. Chacun rêvait de vendre pour un dollar de marchandises à chaque Chinois. En équipement manufacturé, en biens de consommation, tout ce que la Chine ne savait pas faire. Elle exportait du pétrole et du textile. Dans les années 80, la Chine et les États-Unis ont échangé de nombreux secrets, y compris militaires, technologiques, dans une coopération toujours croissante. En 84, Ronald Reagan, anticommuniste notoire, affirmait à Pékin, devant le Premier ministre chinois, que « nous nous sommes engagés à être amis ». Et il ajoutait, tant cela pouvait être étonnant, cette promesse est solide. Tous les dirigeants chinois envoyaient leurs enfants faire des études dans les meilleures écoles supérieures américaines et la mode chinoise dans les hautes sphères était de donner à ses enfants un prénom américain. Les réformes économiques en Chine ont été très progressives. Avec la réintroduction du marché à la campagne et la décollectivisation des terres entre 1978 et 1984, une couche de paysans commença à s'enrichir et à concentrer les terres. Certains se lançaient dans des activités commerciales et industrielles en créant de petites entreprises dans les campagnes. Ces réformes économiques et le parrainage américain furent le signal pour la bourgeoisie chinoise émigrée, la diaspora, qu'il était possible de revenir au pays et d'y ramasser de faramineux profits. Cette diaspora représentait, en 92, 50 millions de personnes, 17 à Taïwan, 5 à Hong Kong, 2 aux États-Unis. Pour attirer la diaspora de Hong Kong, Deng Xiaoping ouvrit 2 des 4 premières zones économiques spéciales, les ZES, au Guangdong, juste de l'autre côté de la frontière. Il bénéficiait d'un traitement privilégié. Les salaires dans les ZES étaient en 78 10 fois moins élevés qu'à Hong Kong. Les terrains, 3 fois moins chers. Les exonérations de droits de douane, les allègements d'impôts sur les personnes, les bénéfices convainquaient les bourgeois émigrés d'y délocaliser leurs industries et d'y localiser leurs nouveaux investissements. Ainsi, en 92, l'industrie hongkongaise employait 800 000 personnes sur Hong Kong même, et 2,5 millions dans le Guangdong. Les industriels de Taïwan se déployèrent quant à eux dans la ZES du Fujian, juste de l'autre côté du détroit de Taïwan. Au début des années 90, la diaspora contrôlait à elle seule les 2/3 des investissements étrangers en Chine, beaucoup dans le textile et la chaussure. Bref, la bourgeoisie retournait au pays. Ceux des capitalistes qui connaissaient les rouages de l'État chinois ou qui avaient des relations en son sein, qui avaient le réseau, le Guangxi en chinois, étaient particulièrement avantagés. Ils servirent d'intermédiaires à nombre de capitalistes occidentaux, mais ils servirent aussi de prête-noms pour nombre de membres des couches dirigeantes chinoises qui recyclèrent dans les ZES les sommes qu'ils détournaient en Chine même. L'argent revenait blanchi sous la forme d'un investissement étranger bénéficiant de nombreux avantages. En 93, un journaliste estima qu'en 3 années, de 90 à 92, entre 30 et 40 milliards de dollars avaient été recyclés de cette manière. Une figure émerge de ces années-là. C'est celle de Wang Yiren, héritier d'une dynastie de capitalistes shanghaïens. Alors que 4 de ses 6 frères avaient quitté la Chine lors de la Révolution, il resta et continua à diriger les entreprises familiales, même quand le gouvernement en prit le contrôle en 1956. Alors qu'il n'était pas au PC, il fut nommé adjoint au maire de Shanghai en 1957, vice-ministre de l'industrie textile en 1959. En 1979, Deng lui demanda de former une société pour attirer les capitaux étrangers. La CITIC, publique sur le papier, fonctionnait en réalité comme une entreprise capitaliste. Elle gérait une banque en concurrence avec les banques d'État, arrangeait des prêts, investissait et importait des équipements pour les entreprises chinoises, possédait des entreprises et des succursales à l'étranger. La CITIC devint un repère de fils de dignitaires qui, nommés à des postes de dirigeants, y réapprirent les lois du marché, de l'accumulation et de la prédation. Après avoir été vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Rong fut élu vice-président de la Chine de 1993 à 1998. À la CITIC, c'est son fils, vous noterez le prénom, Larry Young, qui prit sa suite. Les premiers investissements de la diaspora chinoise et de Hong Kong et de Taïwan ont fait la démonstration que les capitalistes occidentaux et japonais pouvaient dorénavant faire du profit en Chine. L'État chinois leur déploya le tapis rouge. Il se fit, en quelque sorte, l'agent de l'impérialisme sur le sol chinois, l'introduisant, faisant tout pour lui garantir le marché et les profits. L'automobile est un cas d'école. Né en 1955, L'industrie automobile ne produisait en 1980 que 5000 voitures individuelles. Fin 2000, elle employait 2 millions de personnes et sa production annuelle dépassait 600 000 voitures individuelles, 100 fois plus que 20 ans auparavant, mais encore bien peu dans ce vaste pays. En 1989, le marché était organisé par l'État chinois. La production répartie entre différents constructeurs. L'un des premiers investisseurs étrangers fut l'Allemand Volkswagen, qui choisit en 1985 pour partenaire la SAIC, la Shanghai Automobile Industrial Corporation, une entreprise détenue par la ville de Shanghai et qui fabriquait déjà des voitures, avait un réseau de fournisseurs et un réseau commercial. Volkswagen obtint de l'État chinois, au travers de cette joint venture, 60% du marché. Avec l'aide des autorités chinoises, Volkswagen avait trouvé une solution sans risque. L'entrée des entreprises multinationales sur le marché chinois leur fut donc d'emblée fort profitable. Les joint ventures étaient 4 fois plus rentables que les entreprises chinoises. Mais ce fut pendant les années 90 et 2000 que les entreprises occidentales, de façon directe ou indirecte, investirent largement sur le territoire chinois. En 2002, ce n'est plus Taïwan et Hong Kong qui sont les premiers investisseurs étrangers, mais le Japon et les États-Unis. En phase avec ces trusts, le gouvernement américain défendait une ligne qu'il appelait « engagement », où il affirmait, avec toute l'hypocrisie dont sont capables les dirigeants impérialistes, faire du commerce le cheval de Troie, capable de transformer la Chine, je cite Clinton, en une puissance responsable qui garantisse non seulement économiquement mais aussi en maturité politique jusqu'au point où les droits de l'homme seront respectés. Ce qui leur importait, c'était surtout les droits de l'homme riche, de l'homme capitaliste et qui plus est, américain. Pendant 30 ans, jusqu'au début des années 2010, rien, pas même le massacre de Tiananmen, ne perturba cette convergence d'intérêts entre la bourgeoisie américaine et la bourgeoisie chinoise renaissante. Durant toutes ces années, la dictature qu'était la Chine ne les gênait pas. En 1989, les manifestations d'étudiants, mais aussi de travailleurs, déferlèrent sur la Chine. Ils contestaient, outre l'absence de liberté politique, l'inflation et la corruption du régime qui devenaient endémiques depuis la réintroduction du marché. Pendant des semaines, ils manifestèrent toujours plus nombreux, jusqu'à ce que le 4 juin, le régime se décide à les écraser sous les chenilles de ses chars place Tiananmen. Pendant les mois qui suivirent, les arrestations et les exécutions se multiplièrent par milliers dans tout le pays. Après l'écrasement de Tiananmen, le président George Bush annonça qu'il suspendait toutes les ventes et les exportations d'armes vers la Chine, ainsi que les échanges entre dirigeants militaires américains et chinois. Toutefois, ces mesures ne durèrent pas longtemps. George Bush écrivit même à Deng Xiaoping pour s'excuser de ces mesures qu'il avait dû prendre pour la forme. Et Henry Kissinger, l'inspirateur de la politique américaine, de la politique étrangère américaine depuis les années 70, publiait dans le Washington Post du 1er août 1989 un article dont le titre « La caricature de Deng Xiaoping en tyran n'est pas juste » est tout un programme. Il écrivait qu'aucun gouvernement au monde n'aurait toléré de voir la principale place de la capitale occupée pendant 8 semaines par des dizaines de milliers de manifestants. La répression était inévitable, concluait-il. En réalité, le patronat américain qui investissait sur le marché chinois et qui en importait de plus en plus de marchandises avec de bonnes marges faisait tout pour que tout continue comme avant. Comme le formula cyniquement un ministre de la Défense chinois, 30 ans plus tard, grâce aux mesures prises à l'époque, la Chine a joui de stabilité et de développement. La répression de Tiananmen ne suspendit le cours de la première phase des réformes économiques que le temps d'étouffer complètement la contestation. La classe ouvrière avait été muselée, l'État chinois pensait avoir la voie libre pour l'attaquer frontalement. L'offensive contre la classe ouvrière reprit avec la seconde phase des réformes économiques lancée par Deng Xiaoping lui-même en 1992. Elle se traduisit d'abord par une privatisation de larges secteurs de l'économie. L'État prétendait, je cite, « conserver les gros poissons en laissant filer les petits », c'est-à-dire ne vendre que les petites entreprises. En fait, la plupart y passèrent. En 2001, 86% des entreprises d'État avaient été restructurées, 70% d'entre elles avaient été partiellement ou entièrement privatisées. Ce processus s'est accompagné par le licenciement de 30 à 40 millions de travailleurs en 6 ans, de 1996 à 2001, L'emploi dans l'industrie manufacturière facturière fut réduit de 40%. En s'attaquant aux emplois dans les entreprises d'État, le régime s'attaquait au statut d'une partie de la classe ouvrière, le bol de riz en fer, synonyme de l'emploi à vie, d'un salaire garanti et à peu près égal entre ouvriers, d'une prise en charge des soins médicaux, de logements petits et spartiates mais pas chers, de la scolarisation, d'un droit à la retraite. Cette classe ouvrière des entreprises d'État, la moins mal lotie, qui n'avait aucun droit à l'expression libre ou à l'organisation syndicale ou politique en dehors des organisations du parti, fut massivement mise au chômage, libérée pour se faire embaucher dans des conditions bien pires dans les nouvelles entreprises privées. Malgré la démoralisation des travailleurs après la défaite et la répression de Tiananmen, il y eut des réactions, des dizaines de milliers de grèves, des manifestations, des pétitions, des occupations d'usines, des destructions de bâtiments publics, des séquestrations, voire le lynchage de cadres. Il n'était pas rare que les travailleurs protestent au nom des intérêts politiques de leur classe en affirmant que les ouvriers étaient les maîtres du pays contre la nouvelle bourgeoisie, pour le socialisme, contre le capitalisme. Cependant, cette colère n'explosa qu'en ordre dispersé. Les privatisations assurèrent l'ascension rapide des directeurs d'usines, des directeurs d'entreprises d'État, des dirigeants des gouvernements locaux, devenus à l'occasion de la privatisation propriétaires ou directeurs des entreprises privées. Les dirigeants chinois tentaient ainsi de se donner une base sociale plus large. Mais ceux qui réussirent, qui devinrent immensément riches, étaient intimement liés à l'appareil d'État. L'ascension de 2 milliardaires, on connaît leur vie, ils l'ont raconté dans un bouquin, l'ascension de Desmond Chun et de sa compagne, Whitney Duan, qui furent un temps parmi les plus riches chinois, est typique. La famille de Desmond Chun est celle de ces capitalistes dits patriotes qui se sont expatriés à Hong Kong et qui revinrent faire des affaires au pays. Son père se fit l'intermédiaire de Tyson Food pour vendre en Chine les abats de poulet dont l'entreprise américaine ne savait que faire. Whitney Duan, employé de l'armée, récupéra pour son compte l'importation de matériel informatique lors de la privatisation des années 90. Mais le couple n'atteint des sommets que grâce à leur relation avec la femme du Premier ministre des années 2000, Wen Jiabao. Par son entreprise, Chum et Duan obtinrent des marchés juteux, comme la construction d'un aéroport, des affaires sur lesquelles Tang Zhang, la femme de Wen Jiabao, touchait 20 ou 30%. La caste dirigeante qui accapare le pouvoir économique et politique au niveau de l'État central ou des provinces est constituée peut-être en Chine de 5000 familles. Un journaliste a calculé que cette caste a accumulé en 30 ans 2 000 milliards de dollars. Parmi ces familles, celle des princes rouges, les descendants des révolutionnaires de 1949, représenterait la moitié des milliardaires de Chine. L'homme le plus riche de Chine a longtemps été Wang Jianlin. C'est un ancien soldat de l'armée populaire de libération, transféré sur le tard dans l'administration immobilière et qui a inventé avec Bo Xilai, le concurrent au pouvoir en 2012 de Xi Jinping, qui a inventé la corruption immobilière à grande échelle. Hu Jintao, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien secrétaire général du PC, qu'on a vu sortir en direct à la télévision au congrès du PC en octobre dernier, il a été sorti par la sécurité, en direct à la télévision, n'aurait possédé que quelques dizaines de millions d'euros. La famille de Bo Xilai aurait, quant à elle, transféré à l'étranger au fil des ans l'équivalent de 6 milliards de dollars avant d'être violemment mise à l'écart. Le pillage de ce que l'État avait mis des décennies à accumuler est à la base de l'émergence d'une grande bourgeoisie composée aujourd'hui de quelques centaines de milliardaires en dollars, de plusieurs millions de millionnaires et de plusieurs dizaines de millions de plus petits bourgeois, un vrai marché pour les entreprises chinoises et occidentales. Ces entreprises peuvent aussi exploiter des millions de travailleurs ruraux, des migrants de l'intérieur qui ont quitté les campagnes à la recherche d'un salaire meilleur. Car si les réformes économiques ont enrichi une mince couche de paysans au début des années 80, les conditions de vie à la campagne se dégradèrent très vite. L'ouverture au marché mondial, les importations de céréales firent baisser les prix des produits agricoles. De plus en plus de paysans ne pouvaient plus vivre de leur travail. Ils furent poussés vers les zones économiques spéciales à la recherche d'un emploi, souvent un petit boulot dans les zones industrielles. De quelques millions dans les années 70, ces Mingong, ces travailleurs migrants de l'intérieur, étaient 150 millions en 2000, près de 300 millions en 2019, travaillant comme domestiques sur les chantiers, dans les usines collectives ou privées, dans les entreprises à capitaux étrangers ou mixtes, en étant concentrés par milliers, voire dizaines de milliers, dans des usines-prisons. C'est cette force de travail que l'État chinois a offert à la bourgeoisie chinoise et à la bourgeoisie occidentale. Dans les usines textiles, dans les usines d'électronique, c'est souvent le travail 6 ou 7 jours sur 7, 10 ou 12 heures par jour, dans des conditions terribles, avec des cadences infernales pour des salaires de misère. Une migrante raconte, dans une entreprise de Shenzhen, la commune qui est juste en face de Hong Kong, de l'autre côté de la frontière, où fut implantée la première ZES, il fallait travailler dans la chaleur et les vapeurs de produits chimiques, et qu'au bout de quelques mois, le cycle menstruel des femmes devenait irrégulier et qu'au bout de quelques années, elles ne parvenaient plus à contrôler leurs mouvements. Dans les fabriques de chaussures, à force de coller les semelles, les ouvrières perdaient définitivement toute sensation au bout des doigts et de nombreux se sont retrouvés partiellement ou entièrement paralysés. On trouve de nombreux témoignages de ce genre. Dans ces bagnes-usines, on mourait aussi bien souvent d'accidents et les suicides étaient nombreux. En 2010, Foxconn a même fait la une de la presse pour ses filets anti-suicide. L'exploitation en Chine se fait comme partout, avec le sang et la sueur de millions de travailleurs. Tout cela allait encore s'accélérer dans les années 2000. Les autorités chinoises ont fêté leur entrée à l'OMC en décembre 2001 avec autant de faste et d'orgueil que l'obtention par Pékin des Jeux Olympiques de 2008. La Chine était reconnue comme une puissance à part entière. Mais pour en arriver là, elles ont d'abord dû subir un véritable chantage américain. L'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, qui a participé aux négociations avec la Chine, affirmait en 2021 que, je cite, « la Chine a payé cher son accession à l'OMC, bien plus que d'autres pays de sa catégorie à l'époque. Réduction des tarifs douaniers de moitié en moyenne, ouverture des marchés et des services et du secteur bancaire au capital étranger, ouverture du marché agricole, introduisant la concurrence des céréales européennes, des céréaliers européens et américains, les États-Unis faisaient rentrer la Chine dans leur cadre et à leurs conditions. Le pouvoir chinois n'avait de toute façon pas le choix. Les États-Unis avaient décidé non seulement de sous-traiter tout ce qu'ils pouvaient dans des pays à bas salaire, mais aussi d'ouvrir leur propre marché à des produits fabriqués à des coûts de plus en plus bas, ce qui permettait y compris de comprimer les salaires des travailleurs américains en leur vendant des produits peu chers. Et les États-Unis pouvaient toujours changer de fournisseur si les conditions qu'ils cherchaient n'étaient pas réunies. Ils pouvaient mettre en concurrence la Chine avec le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie ou le Mexique. Ils pouvaient fermer tout ou partie de leur marché à la Chine. Celle-ci, à l'inverse, ne pouvait pas se passer du marché américain. La Chine s'intégrait dans l'économie mondiale comme sous-traitante de l'industrie occidentale en vendant sa main-d'œuvre bon marché. L'entrée dans l'OMC accéléra l'arrivée des capitaux étrangers. Dès 2010, la Chine était devenue le deuxième plus grand pays manufacturier du monde, devançant le Japon derrière les États-Unis. Parallèlement à son engagement économique, l'impérialisme a toujours maintenu sur la Chine une certaine pression militaire. Les États-Unis n'ont jamais abandonné Taïwan comme tête de pont dans la région. Le premier communiqué sino-américain, signé en février 1972 à Shanghai, reconnaissait qu'il n'y avait qu'une seule Chine, mais sans trancher si cette Chine devait être dirigée de Taipei, la capitale de Taïwan, c'est-à-dire là où il y avait le Kuomintang, ou de Pékin. Ils maintinrent leur ambassade à Taipei jusqu'en 1979. Alors que le gouvernement américain officialisait ses liens diplomatiques avec Pékin, le Congrès votait le Taiwan Relations Act, par lequel les États-Unis s'autorisaient à vendre des armes à Taipei et à la soutenir militairement. Bref, la grande amitié entre la Chine et les États-Unis n'était pas fusionnelle, les États-Unis n'hésitaient pas à le rappeler. Du côté des dirigeants chinois, les contradictions s'accumulaient. L'ouverture leur était des plus profitables, mais la Chine allait-elle se laisser dissoudre par le flot de dollars ? La Chine allait-elle de nouveau sombrer sous la pression impérialiste, comme à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle ? Jusque dans les années 70, le parti centralisait tous les pouvoirs et primait dans les entreprises. Au début des années 80, le pouvoir relâcha les liens des entreprises avec le Parti communiste. Et plus généralement, il relâcha les liens entre l'État central et les provinces, entre les gouvernements locaux et les collectivités, opérant un mouvement général de décentralisation de l'économie. Les provinces obtinrent l'autonomie financière. Les bureaucrates locaux pouvaient gérer leur budget en vendant à des promoteurs l'usage des terres des paysans. Et c'était à eux, aux bureaucrates locaux, de faire en sorte que la colère soulevée par les opérations immobilières et la spéculation ne fasse pas des vagues trop importantes. Dans les entreprises, les directeurs devinrent responsables. Les entreprises étrangères devaient trouver les oreilles des fonctionnaires locaux pour faire leurs affaires. La corruption se développa à tous les étages. Après l'écrasement de Tiananmen, le PC reçut la mission de constituer au sein des entreprises publiques un noyau politique afin de participer aux décisions importantes et d'empêcher, je cite, « toute nouvelle perturbation politique ». La révolte de Tiananmen et les luttes ouvrières des années 90 leur avaient montré que l'introduction du capitalisme accroissait les tensions dans la société. Mais la chute du mur de Berlin, puis celle de l'URSS en 91, interprétée par les officiels chinois comme le fruit de la faiblesse du Parti communiste d'Union soviétique face aux tendances centrifuges alimentées par les vents libéraux, leur montrait aussi que la décomposition et l'éclatement pouvaient aller vite. Le PC, qui compte des dizaines de millions d'adhérents, près de 100 millions aujourd'hui, est essentiel pour ceux qui veulent faire carrière. Il fournit aussi au sommet dirigeant des leviers d'action directs et rapides dans toute la société chinoise, en doublant l'appareil d'État à de multiples niveaux, y compris dans la répression. Alors, bien que l'État chinois ait promis à l'OMC d'aller encore plus loin dans l'ouverture de la Chine aux capitalistes étrangers, il chercha à garder la main sur un certain nombre de secteurs clés, l'énergie, l'Internet, l'aéronautique, le spatial, les télécommunications, la banque, en y interdisant les joint-ventures. Mais même quand les entreprises sont privées, elles ont souvent des liens étroits avec l'appareil d'État, au travers de leurs dirigeants, de leurs actionnaires. Bref, bien plus que la main invisible du marché, c'est la main bien visible de l'État qui a permis l'essor économique des années 2000. La crise économique mondiale de 2008 accentua l'intervention de l'État. La récession qui gagna alors la planète provoqua une baisse mondiale de la consommation de biens manufacturés, la base sur laquelle le capitalisme chinois prospérait depuis une dizaine d'années. Pour contrer les effets de la crise, le régime décida, dès 2008, de plans de relance économique comparables à ce que faisaient alors les États-Unis. Le régime dépensa des milliers de milliards de dollars pour construire des lignes de chemin de fer, des aéroports, des zones industrielles toutes neuves, mais aussi des théâtres et des musées. La construction d'infrastructures et l'immobilier devinrent les nouveaux Eldorado de la spéculation. Ces centaines de milliards furent une bouée de sauvetage pour la bourgeoisie chinoise, mais aussi pour toute une partie de la bourgeoisie occidentale qui se précipita en Chine pour tenter de capter une partie de la manne. L'un dans l'autre, c'est la dette de l'État qui s'envola. Alors, au bilan de cette période de développement capitaliste de la Chine, émergea une classe ouvrière jeune, combative, forte de centaines de millions de membres, surexploitée aussi et dont le travail enrichit une bourgeoisie chinoise en pleine renaissance. Cette résurgence se fit sous la protection de l'État chinois qui, fort de son histoire, sut ne pas sombrer, mais même continuer à se développer et à assurer à cette bourgeoisie sa part de profit. Loin de se dissoudre, l'État chinois se renforçait. Il allait de nouveau se heurter aux limites tolérées par l'impérialisme. Et nous verrons la suite après la pause.